Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent.
Le Parlement ? Le roi d'Angleterre ? Allez, chapeau bas devant les hommes du peuple commun !
Un mendiant !
Oui !
Royaume-Uni ou Royaume des Unis ?
Couronnée en 1952, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II compte parmi ses ancêtres des rois et des reines d'Angleterre et d'Écosse. Nul doute que perdre un joyau de sa couronne ne la laisse pas indifférente. Selon la presse britannique, dimanche dernier, à Balmoral, elle aurait dit « J'espère que les gens vont bien réfléchir pour l'avenir ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Bernard Cottret, qui nous revient à la demande générale. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Bernard Cottret, qui a publié récemment chez Talendier un livre sur les reines qui ont fait l'Angleterre. Leçon d'Elisabeth II, qu'on vient d'entendre, 2014, au moment d'un référendum sur l'indépendance britannique, écossaise, pardon, qu'avait permis le Premier ministre d'alors, Cameron. Et Cameron, dans ses mémoires, a révélé qu'il avait recommandé à la reine de faire une déclaration.
Oui, il n'aurait jamais dû le faire, le dire, parce que ce qui se passe entre la reine et le Premier ministre est évidemment confidentiel, voire secret.
C'est pas la seule erreur de Cameron.
Oh, il en a fait beaucoup. Dont le vote sur le Brexit.
Dont le vote sur le Brexit, le référendum sur le Brexit, qu'il avait déjà annoncé quand il acceptait l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Mais on reviendra sur l'Écosse dans un instant. 1988, c'est le tricentenaire de la glorieuse révolution de 1688 qu'on évoquait hier dans cette émission. Qu'est-ce que disait la première ministre d'alors, Madame Thatcher,
écoutez,
à propos de cet anniversaire?
Écoutez, cet anniversaire n'a pas été un anniversaire très, très joyeux, contrairement à ce que l'on pouvait présager, parce que effectivement, cet épisode, quand même assez dramatique, il faut bien le dire, pour les Irlandais, n'est pas commémoré de gaieté de cœur dans un Royaume-Uni qui voulait faire bonne figure.
Alors attendez, il va falloir que vous nous racontiez en détail ce qui s'est passé en Irlande après la glorieuse, entre guillemets, révolution.
C'était la glorieuse défaite de certains Irlandais.
Certes, a dit Madame Thatcher, les Irlandais ne pouvaient pas se réjouir comme les autres. Alors,
singulier aveu.
L'Irlande est catholique, elle a pu s'intéresser au sort de Jacques II, qui est battu en Angleterre, qui se voit contraint à l'exil, et qui, l'année d'après la révolution, en 1689, débarque en Irlande, avec des conseillers militaires
François,
fournis par Louis XIV, et qui reste un an en Irlande au moins.
Oui, oui, et ça s'est assez mal passé. Jacques II, qui essayait de reconquérir maladroitement son royaume d'Angleterre en s'appuyant sur l'Irlande, recevait de la part de ses conseillers français des avis qu'il s'est empressé de ne pas suivre. Et en particulier, l'un des généraux qui était là, qui donc était à la tête des troupes françaises, lui a dit « Écoutez, sire, c'est facile, on fonce dans le tas et on les tue tous. » Et Jacques II lui a dit « Ne faites pas ça, misérable, je n'aurai plus de sujet. » Donc Jacques II ne voulait pas reconquérir ses royaumes au prix du sang versé de l'ensemble de ses sujets.
Mais vous avez réédité chez Folio un volume d'archives, de textes commentés et présentés par vos soins sur la glorieuse révolution. Et
il me semble que ça a été écrit à la demande de Pierre Nora, effectivement, pour
l'anniversaire. Comme quoi, il n'était pas complètement raté cet anniversaire.
Mais
il y a eu un
non.
livre de Cottret.
Ouais, ben voilà.
Mais quelque part,
ça rachète l'ensemble.
Quelque part, vous y dites dans ce livre. Si Jacques II avait utilisé des moyens expéditifs, il aurait peut-être pu s'accrocher comme une bernique à l'Irlande.
Je crois. Je pense que Jacques II, j'ai une certaine considération pour Jacques II, c'est un roi battu, on n'aime pas les vaincus, vous le savez très bien, mais je crois qu'il avait quand même des convictions assez fortes, c'était un catholique dont je respecte tout à fait les engagements, même si évidemment, ils étaient désespérés. Comment être le roi catholique d'un espace aussi protestant ?
Guillaume d'Orange, le roi qui est monté avec sa femme Marie sur le trône après la révolution de 1688, se décide à son tour à débarquer en Irlande. En 1690, vous suivez toujours, et là c'est comme une gigantesque ordalie.
Tout à fait. Tout à fait, ces protestants qui débarquent. Alors, chez eux, il y avait évidemment des Anglais, il y avait aussi des Néerlandais, puisque Guillaume d'Orange était néerlandais, comme chacun sait, et puis il y avait aussi des Huguenots avec lui. Et tout ce beau monde était convaincu que Dieu était, le Dieu des batailles était de leur côté.
On peut s'arrêter un instant sur la participation des Français, sur la participation des Néerlandais. C'est une constante, on le constate encore aujourd'hui. Quand il s'agit de l'Irlande, il s'agit de l'Europe.
Absolument, c'est une chose qu'on retrouve, y compris dans les négociations à propos du Brexit. Les Irlandais sont un petit peu, même si c'est plus éloigné de l'Europe géographiquement, eh bien les Irlandais sont un petit peu le regard que l'Europe porte sur la Grande-Bretagne à l'heure actuelle.
Et les Anglais craignent toujours que l'Irlande serve de base arrière pour leurs adversaires qui les contourneraient et les attaqueraient ainsi.
Ils ont peur de la traîtrise proverbiale de leurs amis irlandais.
Et vous avez remarqué
que... Et les papistes sont toujours des traîtres potentiels.
Vous avez remarqué que le Premier ministre irlandais, il y a un beau titre pour le Premier ministre irlandais.
Taoiseach.
Il a rencontré Boris Johnson et il s'est bien gardé de ne pas raconter tout de suite après aux Européens ce qu'il avait dit à Johnson, parce qu'il ne peut pas y avoir de négociation bilatérale.
Exactement, et donc il joue la carte européenne, il la joue, je crois, jusqu'au bout.
Revenons au malheureux Jacques II. Il est battu à la bonne. Il a été aussi mis en échec devant le siège d'une citadelle protestante d'Ulster, Londonderry, et ces échecs sont l'objet de cérémonies annuelles organisées par les orangistes. Le mot orangiste, ça vient du souvenir de Guillaume d'Orange. Ce sont les unionistes d'aujourd'hui qui vont peut-être faire défaut à Boris Johnson samedi qui vient.
Le 280e anniversaire de l'échec du siège de Londonderry par les troupes du roi catholique Jacques II Stuart a mis le feu aux poudres. Le défilé des protestants a été en effet considéré par les catholiques comme une provocation. Après les cris hostiles, ce furent les insultes, puis les jets de pierres et les meutes. Sur les barricades, Bernadette Devlin, 21 ans et seule députée catholique d'Irlande du Nord au Parlement de Londres, appelait la minorité catholique à lutter pour l'égalité de ses droits et dénonçait l'attitude de la police favorable aux protestants qui représentent la majorité dans l'Ulster. À Belfast, comme à Londonderry et dans les autres grandes villes, les quartiers populaires ont été le théâtre de furieux combats de rue qui ont fait 8 morts et plus de 300 blessés. Utilisant des cocktails Molotov, les leaders du mouvement de la colère se sont opposés nuit et jour aux forces de police et aux extrémistes protestants qui entendent préserver leurs avantages sociaux en maintenant les catholiques dans leur triste situation. Alors qu'à Londonderry, le drapeau irlandais flottait sur les toits, à Dublin, capitale de l'Irlande du Sud, des manifestants arrachaient et brûlaient le drapeau anglais en réclamant la réunification de l'île.
1969, et commence une guerre civile qui va durer jusqu'aux accords du Vendredi Saint de 1998.
Tout à fait.
On craint beaucoup le retour de la violence en Ulster. C'est une des raisons pour lesquelles Boris Johnson n'a pas gardé exactement les mêmes positions qu'il préconisait quand il était arrivé au 10 Downing Street.
C'est une véritable obsession, cette partition d'Irlande qui remonte, rappelons-le, aux années 1920 et qui effectivement reste inacceptable pour une partie de la population, y compris de la population d'Irlande du Nord, qui est catholique par ses origines, catholique par ses attaches, et irlandaise par ses choix multiples. Et donc, effectivement, on a quand même un pays qui est un pays coupé en deux, et évidemment, c'est une situation qui apparaît comme une anomalie. Vous avez une barrière, vous aviez, avant l'entrée de l'ensemble dans le Royaume-Uni, une barrière à l'intérieur d'un pays qui apparaissait comme bien artificielle, et le problème à l'heure actuelle, c'est de savoir si on va rétablir cette barrière, ce qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir à nouveau une frontière physique entre les deux parties d'un même pays, l'Irlande.
Alors l'accord auquel on a semblé parvenir ce jour évitait de reconstituer la frontière physique entre l'Ulster et l'Irlande du Sud, la République d'Irlande. Les contrôles douaniers devant se faire ailleurs, dans un lieu extérieur. La glorieuse révolution n'aurait pas provoqué de mort.
Si. Oui, alors écoutez, je crois qu'il y a, des comptabilités un peu truquées, parce que les Irlandais qui ont été tués à la bataille de la Boyne sont pas vraiment considérés comme des êtres humains, dans le fond. Ah bah je crois que c'est un peu ce que ça veut dire. La glorieuse révolution, il y a eu aussi la glorieuse défaite, si j'ose dire, des Irlandais. Il faut pas l'oublier, un an après la bataille de la Boyne, c'est très tôt après la gloire, évidemment, de la révolution en Angleterre.
J'aimerais bien qu'on aille maintenant vers l'Écosse, où il y a seulement 1 million d'habitants
à
là-bas.
À l'époque.
À l'époque, bien sûr. C'est pas une raison pour les massacrer. Ce massacre que nous allons évoquer, qui a été retenu par la littérature, qui fait image, un livre de Walter Scott, des ballades, on va entendre l'une d'entre elles, des cérémonies, alors là, des cérémonies du côté des nationalistes écossais, tout au long des décennies. Ce massacre, il a eu lieu en 1692. C'est pas un massacre volontaire que les chefs orangistes avaient demandé à leurs troupes d'acquitter. C'est plutôt peut-être les conséquences d'une rivalité entre les clans écossais des Highlands. Alors nous sommes donc en 1692, je l'ai dit, à Glencoe. Les soldats orangistes avaient reçu l'hospitalité des Écossais. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont tué 40 hommes, ils ont incendié les maisons, et 40 femmes et enfants sont ensuite morts de froid faute de domicile.
They came from Fort William with murder in mind. The Campbell had orders, King William had signed. Bit all to the sword, these words underlined, and leave none alive.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'Écosse au lendemain de la glorieuse révolution avec Bernard Cotteret. Ce massacre-là, c'est une affaire entre Campbell et McDonald's. Hein.
Ce sont les pauvres McDonald's qui ont été assassinés par les Campbells.
Tout est affaire de clan dans l'Écosse au lendemain de la glorieuse révolution.
Avant, pendant et après, si j'ose dire. Vous savez, ces sociétés claniques ont des aspects très chaleureux et très sympathiques, mais ça peut être redoutable.
Alors, il y a une blague qui fait référence à la localisation des clans dans les Highlands. Et alors donc,
je la connais pas.
Dieu crée un Highlander, pardonnez la prononciation, à partir d'un crottin de cheval. Et qu'est-ce que tu vas faire, lui demande Dieu. Eh bien, je vais aller acheter une vache dans les Lowlands, parce qu'il y a une grande différence entre les terres basses et la montagne en Écosse. On parle même pas nécessairement la même langue du nord au sud. Il y a du gaélique au nord.
Oui, absolument. Alors dans les Highlands, vous avez effectivement ces Écossais très celtes, ils sont restés très celtiques dans leur culture et dans leur langue, et qui parlent gaélique. Alors que dans les Lowlands, on parle ce qu'on appelle le Scots, qui est une langue indéfinissable, qui incompréhensible pour le commun des mortels, mais qui ressemble quand même vaguement à de l'anglais, qui doit avoir des origines saxonnes.
J'aimerais bien que vous ne regardiez pas de surplomb les Lowlands, quand même,
Bernard
Cotteret.
Pas du tout. Bonne histoire qui mal y pense.
Les Écossais, s'ils ont à se plaindre des Anglais, ils ont toujours un recours à utiliser. C'est les Stuarts. Parce que la dynastie des Stuarts, qui règne à Londres, eh ben, elle vient d'Écosse. Et Jacques II a eu un fils, et puis son fils a eu un fils, qui est le prétendant. Et alors ce prétendant, en 1745,
Oui. C'est le merveilleux Bonnie Prince Charlie.
Qu'est-ce qu'il fait?
Comme on l'appelle.
Eh ben, il débarque.
Il débarque.
En Écosse. Il avec l'aide des Français?
Oui, bien entendu. Ah, il y a toujours quelques Français par là. Mais en réalité, il est de plus en plus isolé parce que sur le continent, Louis XV l'a laissé sauvagement tomber. Et donc, c'est un homme courageux, jeune, plein un esprit d'entreprise très fort, franc-maçon, accessoirement, catholique, franc-maçon, il est beaucoup de choses. Il plaît beaucoup à l'Europe éclairée parce qu'il est un prince héroïque. Et on reproche à Louis XV, évidemment, lui, d'être tranquillement dans son palais avec ses maîtresses. Alors que lui, évidemment, c'est encore, il renoue avec la grande tradition des princes guerriers, des chevaliers. Il est une espèce de preux-chevalier.
Alors après son débarquement en Écosse, commence une immense chevauchée qui le mène très loin jusqu'à ce que...
Le jeune prince royal Charles Stuart débarqua sur nos côtes dans une tentative audacieuse pour reconquérir le trône de ses pères, ici en Écosse, puis en Angleterre. Trône occupé par un autre roi, choisi par les Anglais. Après une merveilleuse campagne qui amena le prince et sa petite armée de Highlanders jusqu'aux portes de Londres, ils durent battre en retraite devant des forces supérieures jusqu'aux frontières d'Écosse, et ils furent finalement vaincus à la bataille de Culloden.
Cette maudite bataille. La pluie n'arrêtait pas de tomber. Nous étions trempés jusqu'à la moelle, à moitié morts de fatigue d'avoir marché d'Inverness à Nairn. On surprendra les Anglais au lit, avait dit le prince Charles, mais... Les habits rouges étaient malheureusement levés. Et le gentil prince se troubla. Et pour notre malheur, nous déploya sur cette maudite lande.
On aura reconnu notamment une vieille production de feu, l'ORTF Abderrisker, le maître de Ballantré. 1746, c'est la fin des espoirs d'Estuart.
Oui, pratiquement, les Stuarts ont été définitivement vaincus. Charles-Édouard lui-même va sombrer, hélas, dans l'alcoolisme, arrive à des gens très bien.
Il a quand même... Mais il s'est quand même déguisé en pêcheur, oui. Berger. Il a été hébergé dans les chaumières, alors que les dragons de Guillaume
pourchassaient. Vous savez, il était très beau.
Personne ne l'a livré.
Non. Non, il a été effectivement soutenu quand même jusqu'au bout. Il avait un certain nombre de partisans et je crois qu'il continue à vivre dans la légende jusqu'à l'heure actuelle.
Alors, Diderot voyait dans le fait que personne ne l'avait livré une illustration de la bonté naturelle de l'homme, mais vous dites qu'il est devenu alcoolique.
Oui, pas Diderot, mais le prince.
Le prince, oui, le prince Stuart. Il y avait un autre Stuart, disons qu'elle avait un tempérament d'homme... qui mérite d'être
d'ailleurs, elle aimait signalée. Elle aimait les dames. On en a beaucoup parlé dans le film qui a été fait à son sujet.
Vous parlez de la reine Anne.
Oui, tout à fait.
Là, on est remonté un peu en arrière. C'est elle qui a succédé à Marie et à Guillaume. C'est une fille de Jacques II. C'est donc une reine Stuart. Elle aime les femmes, d'accord. Mais elle aime l'Écosse de très près jusqu'à aspirer jusque vers son trône. L'Écosse, c'est elle qui fonde le Royaume-Uni. Royaume-Uni, ça date de 1707.
C'est elle qui fonde le Royaume-Uni en 1707, effectivement. Et donc ce royaume qui est fait de l'association de l'Angleterre et de l'Écosse. Et ce qui donne, tout à l'heure, il y a une erreur dans une bande son que vous avez, que nous avons écouté ensemble. On parlait du drapeau anglais. Il n'y a pas de drapeau anglais. C'est le drapeau britannique. C'est-à-dire, c'est le drapeau du Royaume-Uni.
Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans la bande-son, comme vous dites, que nous allons vous faire entendre. En tout cas, on ne pourra accuser personne, puisque le conférencier qui lit dans l'heure de culture française, eh bien, nous avons été incapables de l'identifier.
Le 1er mai 1707, l'Écosse, rattachée à l'Angleterre, formait avec elle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Il avait fallu beaucoup de temps pour que ces deux nations voisines, l'Écosse occupant le nord et l'Angleterre le sud du Nil, n'en fit plus qu'une seule. Dès son avènement, la reine Anne médita d'achever l'union de l'Angleterre et de l'Écosse en fondant en un seul leurs parlements respectifs. Le plus difficile est de faire approuver cet accord par les deux chambres. les Anglais affirmaient bien que l'union complète assurerait la force et la prospérité des deux pays. Ils ajoutaient, pour séduire les Écossais, que les impôts payés par les Écossais ne s'élèveraient pas au septième de ceux qui frapperaient l'Angleterre. Mais les Écossais, jaloux de leur indépendance, n'étaient pas convaincus. L'un d'eux, Lord Belhaven, fit un discours retentissant. Dans une vision prophétique, il voyait les calamités fondre sur l'Écosse, le peuple décimé par la famine. À quoi Lord Marchmont répliqua qu'il avait été lui aussi épouvanté par cette horrible vision. Mais, ajoutait-il en souriant, je m'éveillais et je m'aperçus que ce n'était qu'un rêve.
Alors, Royaume-Uni, rêve ou cauchemar? Les deux chambres dont il est question ici, Bernard Cotterêts, c'est le Parlement de Londres, la reine en son Parlement, et le Parlement d'Édimbourg, la reine en son Parlement. Le Parlement d'Édimbourg se sera donc réuni pour la dernière fois, apparemment, en 1706, et oui, l'union est actée. Alors, avantage et inconvénient, rêve ou cauchemar pour l'Écosse?
Alors, l'avantage de l'union, va évidemment profiter à une partie des Écossais. On parlait des Lowlands, ces Écossais qui, par leur langue et par leur culture, sont quand même très proches, évidemment, de leurs voisins du Sud, parce que Édimbourg est quand même, à l'époque, une grande place financière et de plus en plus une place intellectuelle. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là qui est considérable au XVIIIe siècle. Donc, les Écossais vont profiter, évidemment, de l'expansion impériale, et ça n'est pas tout à fait un hasard si dans l'armée des Indes, comme on l'imagine, vous avez toujours beaucoup d'officiers et de troupes même qui sont originaires d'Écosse. C'est un petit peu comme les Corses chez nous, si vous permettez cette rapide comparaison, qui ont été aussi dans la conquête coloniale.
Je ne veux pas mécontenter nos amis corses, mais...
C'est un compliment que j'en desserre.
Les Corses peuvent difficilement dire qu'ils sont colonisés parce qu'ils ont été colonisateurs. Les Écossais peuvent difficilement dire qu'ils sont colonisés parce qu'ils ont été colonisateurs.
Tout à fait.
Et le Royaume-Uni, ça a ouvert les ports, le commerce.
Ça a ouvert le port, ça a ouvert le commerce. Et je pense que, alors, on peut pas réécrire l'histoire, mais je pense, si vous voulez, personnellement, je suis plutôt un défenseur du Royaume-Uni que de l'indépendance écossaise. Est-ce que je peux dire ça comme ça?
Oh, bah, vous aurez l'occasion de le redire dans les minutes qui restent, Bernard Cotterêts. Les Lumières écossaises, c'est la conséquence de l'unification, en grande partie? Parce qu'il y a eu des Lumières écossaises au XVIIIe siècle.
Extraordinaire. Regardez, Adam Smith, qui est quand même le plus grand économiste du XVIIIe siècle, est un Écossais. Regardez David Hume, qui est quand même l'un des plus grands historiens et philosophes du XVIIIe siècle, encore un Écossais. Et la liste est longue. Et je crois que, si vous voulez, l'Écosse, effectivement, a vraiment tiré... Alors, il y a des Écossais qui vont vous dire le contraire, ça je les laisse, c'est leur problème. Mais a vraiment tiré son épingle du jeu, en tout cas au XVIIIe siècle.
Oui, mais à la fin du XXe siècle, si on vient maintenant à l'époque contemporaine, pourquoi les Écossais ont-ils demandé à retrouver leur singularité et leurs institutions?
Écoutez, je crois que ça c'est un vieux rêve qui est ancré dans beaucoup de peuples encore à l'heure actuelle en Europe. Regardez avec la Catalogne, les Catalans qui rêvent aussi d'une Catalogne indépendante, les Basques qui s'y mettent très rapidement aussi. Quelques Corses, on ne va pas les citer tous. Je pense que les Bretons, je crois qu'on en parle moins maintenant. Mais il y a effectivement, je pense, des velléités d'indépendance un petit peu partout en Europe. Et personnellement, je suis...
Ça, vous l'avez déjà dit.
Oui.
Je n'allais pas le redire. Vous aurez une occasion ou deux avant la fin de l'émission.
Je suis favorable, effectivement, à l'intégration dans les différents États-nations.
1999, le Parlement d'Édimbourg est rétabli et la reine Elisabeth II l'ouvre. Et alors, elle est impayable, la reine, parce qu'elle dit que...
Merveilleuse.
La couronne qui est là devant elle, elle existe depuis 1294, c'est la couronne d'Écosse. Oui. Et puis que la dernière session a eu lieu en 1706, mais que la procession de réouverture en 1999 ressemble exactement à la procession de 1706.
Oui, on est dans la continuité, on est dans la tradition, et je crois que c'est ce qui évidemment cimente l'unité de ce Royaume-Uni. Vous savez que la reine tous les ans va effectivement en Écosse, dans son château, passer l'été.
Mais alors maintenant vous allez pouvoir exprimer vos positions plus clairement. En 2000...
C'est redoutable ce que vous me demandez là.
En 2014, un premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse a lieu, qui est perdu de justesse par les indépendantistes. Qu'est-ce qui a permis ce référendum? Qui l'a permis d'ailleurs?
Je pense que c'est une erreur de David Cameron, qui a pensé que ce serait une victoire simple et qu'il a effectivement remporté. Et après, il a transposé ça au niveau européen, en disant « Mais maintenant, on va faire un autre référendum. Maintenant, je vais gagner un deuxième référendum, celui sur l'Europe. » Et malheureusement, pour lui et pour nous tous, il a perdu.
Ah, là, on sent de nouveau une prise de position de la part de Bernard Cotteret.
Ah oui.
Les Écossais ont voté contre le Brexit. Au fond, le nationalisme écossais dont vous dites du mal, c'est un nationalisme beaucoup plus ouvert que celui de Boris Johnson, qui est replié sur les intérêts de l'Angleterre.
Non, Boris Johnson défend véritablement le Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne défend que l'Angleterre.
Et j'ai une preuve de l'ouverture du nationalisme écossais. C'est pas du tout le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, par exemple.
Non.
Où il faut avoir je ne sais combien d'années d'installation en Nouvelle-Calédonie pour avoir le droit de vote. On a entre 16 et 18 ans, je parle du référendum de 2014,
c'est ça.
On est ressortissant de l'Union européenne, on est ressortissant du Commonwealth, on a le droit de voter en Écosse pour ou contre l'indépendance.
Oui.
C'est pas une preuve d'ouverture, ça, Monsieur Cotteret?
Ben si, c'est une preuve d'ouverture, mais voilà, le référendum a été gagné, effectivement, par les adversaires de l'indépendance.
Oui, mais il va y avoir un nouveau référendum, nous dit le Premier ministre écossais, qui le promet pour 2020.
C'est pas lui qui décide, c'est
2020.
Pas Madame Sturgeon qui décide.
C'est qui, Madame Sturgeon?
Madame Sturgeon, c'est le Premier ministre écossais dont vous parlez.
Et qui dirige un parti nationaliste?
Oui.
Et il y a aussi des partis nationalistes autres que le sien, d'ailleurs.
Parti nationaliste gallois aussi, si vous voulez.
Dites-moi, vote samedi des communes sur le projet d'accord entre Londres et Bruxelles. Plus rien ne sera comme avant. Si je lis Le cœur de l'Angleterre, formidable roman de Jonathan Coe, il est dit, nous sommes maintenant deux camps, X et ses semblables, moi et mes semblables, dit la narratrice, on a beau vivre côte à côte dans le même pays, on habite pourtant deux univers différents, séparés par une cloison étanche, une muraille formidable, faite de peur et de suspicion, voire peut-être de ces traits britanniques par excellence qui sont la honte et la gêne.
C'est très remarquable. C'est une description qui reprend presque textuellement ce qu'avait dit Disraeli, le grand ministre victorien, quand il était romancier et qu'il décrivait ces deux nations qui coexistaient à l'intérieur de l'Angleterre, et on est au début du 19e siècle, eh bien ça n'a pas changé.
Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine, Bernard Cotteret. Vos livres sont sur le site de notre émission qui a été préparée par Franck Oliva et Nika Negulesco, Frédéric Martin, avec à la technique Rémi Sistiaga, la réalisation c'était Audrey Ripouille.